France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
C'est l'histoire d'un palais dans le désert, à Louxor, qu'un architecte promet de construire à deux de ses amis. C'est l'histoire d'un homme à la recherche d'un Orient rêvé, d'un autre défait par une histoire d'amour qui se termine mal, et d'un troisième, voleur talentueux, qui finit en prison. C'est l'histoire d'un rêve évanoui dans les sables, au fil des années, et c'est une histoire vraie, qui a pourtant quelque chose d'un conte. C'est leur histoire, et pour l'atelier de création radiophonique, ils l'avaient racontée à deux voix. Louxor Story, une émission de Yolande Zoberman et Selim Nassib, réalisée par Charlotte Roux et diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 avril 2007.
La création.
Atelier de création radiophonique. Tempo. Louxor Story par Selim Nassib et Yolande Zoberman.
Où est Rajab?
Il n'est pas là. Tu me donnes un bakchich pour le foin?
Le foin n'est pas à moi. Le foin est à la maison. Où est-il?
On
l'a fait appeler. Bonjour.
يا عمي
واحدة واحدة براها عشان البيارة
اه بنا عافية
يا عمي كويس تمام
الحمد لله
شديد سنة سنة
اتندي
عد
عد في حاجة
حجر سي ان ماجنيتوفون
سجل ايه
حيوانات يونجستر كوا
الناس
les animaux. Et aussi les gens. Enregistre les animaux, c'est mieux.
Les
gens ne sont pas bien.
Il
y en a des comme ci et des comme ça. Mais à 90%, ils ne sont pas bien. Les gens, c'est fini. On lui a demandé un bakchich à lui. À qui? À lui? Mais il est d'ici, lui.
Moi, j'ai longtemps passé ma vie entre Paris et Beyrouth, parce que j'étais journaliste et je travaillais pour Libération, la guerre, le conflit israélo-palestinien, tout ça. Et puis à un moment, en 85, j'ai écrit un papier sur le Hezbollah qui venait de commencer. En fait, j'ai eu plein de renseignements sur eux. J'ai écrit, je sais pas, trois pages énormes. Et le jour même, il y a quelqu'un qui me téléphone, qui me dit, ils sont en train de te chercher, prends l'avion et va-t'en. Et effectivement, le lendemain matin, j'étais dans l'avion et on m'a fait comprendre qu'il valait mieux que je ne mette pas les pieds au Liban tout de suite. Or, moi, l'équilibre de ma vie, c'était ce balancement entre un moment en Orient, un moment en Occident. Et donc, soudain, j'étais privé d'Orient. Et là, je suis parti à Louxor. Et à Louxor, j'ai retrouvé un vieil ami qui s'était construit une maison, qui s'appelait Olivier, qui était architecte, et qui m'a accueilli chez lui. Et c'était un peu mon Orient de substitution. C'est 2 ans plus tard qu'on s'est rencontrés. Je voulais lui faire découvrir ce monde. C'est comme s'il y avait la moitié du monde qu'il fallait lui montrer. Et c'est vrai qu'introduite comme ça par quelqu'un qui parlait arabe et qui avait quelques racines et tout, c'était pas un voyage touristique, c'était l'inviter dans une aventure.
La première fois où on est parti à Louxor ensemble, la veille, on avait été à la Cinémathèque et on avait vu un très beau film qui s'appelle La Momie, d'un cinéaste égyptien. Et c'était des pilleurs de tombes, en fait. C'était tout le problème de l'archéologie à Louxor. Et le lendemain, quand on est arrivé, on a été directement au bac. Et là, avec les valises, on a traversé parce qu'il n'y avait pas de pont à Louxor. Et il y avait un enterrement. Et voilà, il y avait le corps qui était sous un drap blanc et les hommes qui étaient avec des grands bâtons, les femmes tout en noir et tout le monde pleurait, hurlait. C'était très digne, c'était vraiment comme dans le film, c'était les mêmes. Et on a fait cette traversée de la rive des vivants vers la rive des morts et ouais, c'était une entrée assez belle.
On allait dans un petit hôtel qui s'appelait l'hôtel Habou, en face du temple du même nom, qui est un très beau temple. Olivier avait construit sa maison derrière ce temple. C'était à la tombée de la nuit, je crois. Et donc j'ai conduit Yolande pour qu'elle rencontre mon ami Olivier.
Je connaissais Selim depuis peu. J'arrivais dans cette maison qui était faite de coupoles, mais un peu comme une maison félinienne. Et il y avait cette salle au premier étage dont le sol était fait des coupoles de la pièce en dessous. Donc on marchait en se déséquilibrant tout le temps. Et j'ai vu cet homme et cette femme très très belle qui m'a vraiment impressionnée dans le désert, très, très brune, avec les cheveux très longs, très fière. Fous d'amour l'un pour l'autre, en même temps dévorés par quelque chose qui était leur passion, mais aussi l'Orient, et cet Orient qui les obsédait, qui les obsède toujours tous. Et j'avais vraiment l'impression d'être invitée dans un paradis, et en même temps dans un cauchemar qui n'était pas les miens. J'étais pas particulièrement attirée, ou pas plus que tout le monde. C'est vrai qu'à Louxor, on reconnaît quelque chose d'essentiel, d'essentiellement humain, en fait, qu'on reconnaît tous en soi. Je pense que c'est ça qui fait aussi que les gens sont tellement attirés par Louxor. Et en même temps, il y avait un rapport avec les gens qui, pour moi, étaient assez lointains. Et moi, j'aime bien les rapports à égalité, j'aime bien les rapports comme ça, dans la frontalité. Et là, c'était complètement autre chose, mais j'étais d'accord pour essayer de traverser ce théâtre-là. Et voilà, c'est la sortie d'Égypte, c'est le désert d'Égypte.
Mais en fait, c'est pas du tout le même Orient que celui que j'avais quitté. C'est pas l'Orient de la Méditerranée. Ce n'est pas du tout bon vivant, en rien. C'est dur, c'est longiligne. Le Nil est droit, la vallée du Nil est droite. Les gens sont en djellaba, ils sont allongés. Il y a rien. Tout est en ligne droite, le chemin de fer. C'est des gens assez fermés, assez fiers.
Ils ont des fusils en bandoulière la plupart du temps, enfin beaucoup. Ils sont pas avenants. Moi, j'aimais bien ça. J'aimais bien le fait qu'ils fassent la gueule. Ça me permettait à moi aussi de faire la gueule.
Il y a quelque chose de très, très allergique. C'est vraiment... On peut pas dire qu'on aime. Il y a quelque chose où on sent son corps autrement quand on est immergé dans cet air-là, dans cette langue-là, dans cette musique. Et en même temps, il y a quelque chose qui n'est pas du tout... On est content de ne pas avoir à vivre là tout le temps. C'est ce double mouvement. Et je me rappelle ce premier soir où on a été à une espèce de concert donné par la chair dans un cimetière. Ça c'était vraiment impressionnant parce que les gens montent parmi les tombes pour aller jusqu'au lieu où le concert a lieu. Et là ils font une espèce de petit théâtre improvisé. Et le chair commence à chanter, tout le monde est assis, il n'y a que les hommes. Mais nous, on était montés en moto avec Yolande et Anna, la femme d'Olivier. Et c'était vraiment, je ne sais pas, très très fort comme sentiment. Et on est vraiment en terre étrangère. On arrive dans un lieu où ça ne ressemble à rien. C'est vraiment au bout du monde, c'est vraiment à la frontière entre les terres cultivées et le désert. Et il y a ce cher aveugle qui chante comme ça avec le visage tourné vers le ciel et tous ces hommes en djellaba comme ça, ça fait une espèce de tension très très forte comme ça, l'attente. Et au milieu de ça, la belle Anna qui se promène. Ce soir-là, quand j'ai présenté Olivier à Yolande, il m'a regardé, il a compris que on avait parlé longtemps du fait que moi je n'avais pas de femme, je n'avais pas trouvé l'amour et tout. Et là, ce jour-là, il a compris que c'était elle. Et en fait, un peu plus tard, il a dit qu'il nous construirait une maison et qu'il nous construirait une maison encore plus belle que la sienne. Complètement épaté, je ne croyais pas mes oreilles, je ne croyais pas que ça allait se faire. C'est toi qui l'as cru.
Oui, je l'ai cru. C'est-à-dire, j'étais sûre qu'il construirait cette maison. Et effectivement, je ne comprenais pas vraiment pourquoi, mais j'étais sûre qu'il construirait cette maison. Et construire en Égypte, c'est pas rien, parce qu'en fait, c'est interdit. Et donc, c'est pas une question d'argent. D'ailleurs, sa maison, qui était splendide, il l'avait construite pour 30 000 francs. Et c'est un véritable palais. C'était juste une question de désir. Cette maison existerait s'il y avait le désir qu'elle existe. Et pour ça, il fallait que quelqu'un trouve un terrain là-bas qui soit possible. Et c'est ce qu'il a fait. Il a trouvé non seulement ce terrain. Et là, Selim est rentré dans toute une histoire avec... parce que c'était vraiment un sacré trio à voir. Il y avait le voleur, celui qui vendait le terrain. Il y avait Olivier qui était... complètement effondré d'une certaine manière dans son histoire d'amour pour sa femme. Et il y avait Selim qui avait une véritable névrose de la propriété. Et donc tous les trois étaient palabrés en fait du matin au soir en arabe. Moi je comprenais presque rien, quasiment rien.
Et oui, c'est-à-dire que ce voleur en question, c'est un paysan qui avait trouvé un truc. Il avait construit à côté de sa maison à lui un petit mur d'un mètre de haut sur un périmètre de je sais pas, 500 mètres carrés environ. Et l'année suivante, il a monté ce muret d'un mètre et ainsi de suite, jusqu'à avoir un mur de 6 mètres. Et comme c'est interdit de construire parce que c'est ou des terres archéologiques ou des terres agricoles, il est venu nous dire, vous achetez-moi le terrain qui est à l'intérieur du mur, construisez à l'intérieur du mur, et une fois que ce sera construit, personne n'osera détruire. Mais complètement illégalement, sans permis de construire, sans rien et tout. Et c'était comme un coup de poker, parce qu'il fallait risquer de l'argent, pas beaucoup d'argent, mais quand même, pour construire sans garantie du tout de succès. Je voulais vraiment épater cette femme que j'avais rencontrée en lui disant « Mais moi, je vais t'offrir un palais dans le désert. » C'était vraiment comme ça. Mais en même temps, comme si ce n'était pas vrai. Je ne me rendais pas compte que Olivier était vraiment décidé à construire et que le voleur en question, Rajab, lui, était décidé à faire fortune sur notre dos.
I remember that I believed you completely and I knew all the time that you would go till the end.
That's a good point. That's really and that's special. You are the only
C'est vrai, tu étais la seule à croire que je la construirais.
It's an emotional place. It makes people
C'est un endroit chargé d'émotions.
Feel different. It's got something.
Cela fait que les gens s'y sentent différents.
Light, maybe.
Ça vient d'abord de la lumière peut-être.
But your story is a different story.
Mais votre histoire est spéciale. C'est une maison de rêve construite pour un couple de rêve.
Ici, on est assis dans le désert. On peut dire qu'on n'est pas dans un village. C'est vrai qu'il y a des cultures. Mais ces cultures sont voisines du désert. Ici, c'est la dimension du désert. Et moi, j'aime cet endroit.
Ton père, ton grand-père, Rajab, ils étaient ici ?
Mon père seulement.
Mon
grand-père était du côté du temple Abu.
Que
s'est-il passé ?
Les problèmes dans notre famille. Il s'est disputé avec son frère et son neveu sur une terre et une maison.
Et
il a dit, si c'est comme ça, je m'en vais. Ce qui m'appartient, m'appartient. Je ne reste pas, mais ça continue à m'appartenir. Que Dieu vous salue, et moi je m'en vais. Et il est venu ici.
Et ici, il y avait quoi ?
C'était le désert.
D'abord, il fallait acheter le terrain. C'était à 8h du soir, la tombée de la nuit. Et j'ai dit, bon, je suis d'accord pour le prix qui est demandé. Et à ce moment, il y avait Rajab, Olivier, moi et les enfants des gens avec qui on traitait. Il y a un des gosses qui a été chercher un cheikh à Dodan pour qu'il rédige un contrat de gré à gré, comme ça, sur une feuille détachée d'un cahier d'écolier, où il dit, voilà, la maison, le terrain. La maison, il avait dit, la maison qui est entre la maison de Rajab et un autre terrain qui s'appelle Il Ballone, le ballon, parce que là, c'était un endroit où il y a une montgolfière qui dormait toutes les nuits, appartient à Selim et à son harem, fille de Joseph. voilà, donc l'acte de vente a été rédigé comme ça. Rajab, ne sachant pas signer, il a mis l'empreinte de son pouce. Et moi, j'apprenais pour la première fois ce que c'était qu'acheter un terrain et ensuite comment le construire. Tout ça, c'était un apprentissage. La configuration du terrain faisait qu'il fallait trouver des solutions pour... et donc Olivier a dit, bon, mais avec cette configuration, je peux faire une tour là. Finalement, c'est très grand. Il a dessiné une chose tout à fait spéciale avec 33 coupoles, 3 couloirs avant, une cour de 100 mètres carrés au milieu, vraiment un palais.
Oui, c'était sa vision pour nous. Et c'est vrai que cette maison qui appartient complètement à ce désert, à cette architecture en terre, ressemble beaucoup à la NASA presque.
Un vaisseau spatial, quoi.
Ouais, ouais. Prêt à décoller. Oui, oui.
On se levait le matin avec Olivier, avec une ficelle et un clou dans la poche. On allait sur le terrain et on dessinait avec la ficelle et le clou les fondations, c'est-à-dire ce qu'il y avait sur le papier. Mais c'était quasiment sans plan. C'était vraiment comme ça, c'était en terre crue, de la terre qui sortait de 3 mètres à côté, qui fabriquait des petits rectangles avec de la bouse de buffle et de la paille, qui laissait sécher au soleil, et ensuite, lentement, ça commençait à monter, mais au milieu des pires difficultés. C'est vrai qu'on vivait au rythme des muezzines qui chantaient 5 fois par jour, et qu'à 200 mètres, il y avait le monastère copte, qui s'appelle le monastère du guerrier. Tout ça a été vraiment comme si on était dans un conte de fées, mais la réalité quotidienne, c'était Rajab, le voleur, qui exigeait que tout l'argent lui passe par les mains pour payer les ouvriers. C'était Olivier qui s'était pas réveillé pour venir au chantier. C'était vraiment pas évident, parce que Rajab, qui nous avait vendu le terrain, il considérait absolument pas que le terrain avait cessé de lui appartenir à cause de ça. Et donc, soudain, on a découvert qu'il avait une vieille mère qui avait une petite chambre dans un coin du terrain et qu'il fallait la dédommager pour qu'elle accepte de déguerpir. Ensuite qu'il fallait lui construire quelque chose à côté, ensuite qu'on avait besoin d'eau pour construire, qu'il n'y avait pas d'eau sinon chez lui, donc il fallait la lui payer à prix d'or, avec Olivier qui était vraiment, c'est vrai, comme dévoré de l'intérieur par l'histoire d'amour qu'il vivait avec sa femme qui était un ancien modèle italien qui était venu pour se faire photographier dans sa maison à lui, Olivier, et qui n'était jamais reparti parce qu'elle était tombée amoureuse et qui donc s'était installée en Égypte à Louxor. Qui venait du Liban, qui vivait en Égypte, elle qui venait de Milan, tout ça était toujours sur le point de tourner mal tout le temps, dans une lumière absolument magnifique, avec une espèce comme ça. On a toujours l'impression que c'est élémentaire, parce qu'il n'y a que du sable, il n'y a que de la couleur sable, ou de la couleur verte, parce que nous sommes vraiment sur la frontière entre les deux. Donc il y a une simplification, une décantation des sentiments dans ce lieu, qui fait qu'en même temps, il y a 1000 choses qui vous énervent, parce que ça ne va pas, parce qu'on n'arrive pas à être efficace, on n'arrive pas à construire, rien n'est rationnel. Et en même temps, quand on s'en va d'ici, on a l'impression, de là-bas, on a l'impression un peu d'être exilé. Quand on arrive à Paris, tellement de choses qui n'ont pas d'importance, qui occupent toute la journée, alors que là-bas, comme tu dis toi, il n'y a qu'à rester regarder la lumière.
Ouais, en fait, je sais même pas s'il y a qu'à rester regarder la lumière. Moi, j'ai l'impression qu'on est même emprisonné par la lumière là-bas. C'est-à-dire que c'est quasiment impossible de faire autre chose que de regarder la lumière. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais jamais, je crois, arrêté de travailler un seul jour depuis que j'avais 16 ans. Et tout d'un coup, tout me tombait des mains, c'est-à-dire que c'était impossible. C'était regarder, effectivement. Et en fait, j'étais devenue comme les paysans, comme ça, la nuque raide, qui regardaient toute la journée ce qui se passait, ou devant la terrasse, ou devant la maison, ou devant... Parce qu'il y a un mystère, il y a un mystère dans le désert, on le sent bien. Et dans celui de Louxor, il y a quelque chose, et même quelque chose dans la posture des pharaons, de se faire enterrer là-bas, dans ces maisons. Parce que nous, on appelle ça la rive des morts et la rive des vivants. Mais on dit, je ne sais pas si c'est vrai, que c'est Champollion qui aurait appelé comme ça, enfin qui aurait fait cette distinction entre la vie et la mort, alors que pour les pharaons, c'est des maisons d'éternité, des maisons de millions d'années. Et on a ce sentiment comme ça qu'il y a quelque chose qui, sans frontières en fait, entre la vie et la mort, et qui est dans cette lumière. Bon, après on a eu un enfant et qu'on allait avec elle et un ami ou des amis à elle et qu'on prenait le bac et qu'on passait sur la rive des morts, tout d'un coup je les entendais crier « On est sur la rive des morts, on est sur la rive des morts !» Comme si c'était la plus belle chose du monde. Et rien que de pouvoir dire ce mot « mort » comme ça avec cette intonation, j'ai trouvé que c'était formidable. Et voilà, et que ça aussi c'était un des mystères, c'était de s'approcher de ça. D'un lieu qui se donne comme un lieu de tombe. Et les paysans qui vivent là sont souvent des pierres de tombe, sont donc des gens qui mettent leurs mains à côté des tombes. Et en même temps, il y a cette dignité si grande, c'est terriblement paradoxal.
عشان خاطرنا بدنا ركبت جا جوزها من الشغل قال لها عايز اكل قالت ما فيش اي حاجه طب انا سبتك بتخبزي لا قلت والله ذاك الحريم كل اللي جاي جيرانا ترغفين عشان خاطر النبي شاطر قال لها عشان خاطر النبي يعني عاوز اكل عشاء طب حكايه الفرن حامي قال لها طب عشان خاطر النبي خش الفرن والله قعدت في الفرن ساعتين ثلاثه والنار ما عملت لها ولا حاجه والله هاتنا شاي هذا حاج عبد عشان نقوم نذكر بعد كده عم الشيخ محمد يا جمال عندك ابو هاشم
ابو هاشم En tout cas, cette histoire, soudain, elle s'est interrompue parce que Olivier travaillait de moins en moins pour ses autres clients, ce qui fait qu'ils étaient furieux. Ce qui fait qu'il le poursuivait en disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne construis pas ?» Il construisait à Louxor, mais il construisait aussi au Caire. Et finalement, il y en a un cher du Golfe, qui s'est fâché et qui a menacé d'enlever sa fille, qui était une petite fille de 3 ou 4 ans à l'époque. Et donc, il a eu une telle trouille qu'il a demandé à Anna, sa femme, et leur fille de ranger toutes les affaires en une nuit. Et ils ont pris l'avion le lendemain matin et ils sont partis. Et nous, on s'est retrouvés avec... le chantier qui avait à peine un mètre de haut, et plus d'Olivier, plus personne, plus d'architecte. Et tout le monde s'est arrêté, aussi sec. Vraiment, on ne savait plus du tout quoi faire.
Pour moi, c'était un peu différent, parce que comme je ne m'étais jamais approchée trop près, ni de la construction, ni de la réalité des choses, c'est vrai que je gardais la croyance en cette maison. C'est-à-dire, j'étais sûre que cette maison existerait. Et toutes les difficultés qui existaient me semblaient assez naturelles vu la configuration de départ. Parce qu'en fait, Olivier avait un grand ami qui ressemblait beaucoup à Selim et qui était mort pendant la guerre du Liban. Et je pense qu'il a reporté énormément sur Selim, de cette amitié, de ce lien. Et après, il a reporté énormément sur Selim et moi, de ce lien qu'il avait par rapport à sa femme. C'est ainsi de suite... Il y avait quelque chose quand même d'assez étrange, Selim, dans cette posture qu'il avait eue toute sa vie, avec un nom qui pouvait être de toutes les religions au Liban, qui pouvait épouser toutes les frontières et toutes les communautés dans lesquelles il est rentré, en fait. Et l'envie qu'avait cet homme de faire cette maison pour nous, l'envie de Selim de vivre en Orient malgré toutes les difficultés qui pouvaient exister pour lui de vivre en Orient... voilà, c'était que des choses presque impossibles et qui devenaient non seulement possibles, mais qui étaient offertes dans un lieu absolument exceptionnel, qui est la dernière maison du village, devant le désert. Devant la maison, il y a le désert qui commence et qui s'arrête au Sahara. de l'autre côté, c'est les champs verts, donc c'est vraiment une maison frontière. Et nous, on s'est souvent retrouvés dans nos vies
à la borderline.
Borderline et à la frontière des choses, et à la frontière entre les gens, à la frontière entre des géographies. Et donc, il y avait quelque chose en même temps de tout à fait naturel à se retrouver là, et en même temps de totalement incongru. Mais voilà, comme la réalité est toujours surprenante au fond.
Olivier, avant de partir, nous avait laissé la clé de sa maison à lui. On allait, on vivait dans la maison d'Olivier. On n'avait même plus le cœur d'aller sur notre chantier. Vraiment, c'est comme si le rêve s'était arrêté, quoi. Et là, soudain, il s'est mis à pleuvoir. Or, dans ce pays, il ne pleut jamais. Mais jamais, jamais.
Et c'était assez drôle parce qu'il y avait les gens qui venaient qui disaient « Oh, une pluie comme ça, on n'en a pas vu depuis 10 ans ». Puis un quart d'heure après, ils disaient « Oh, une pluie comme ça, on n'en a pas vu depuis 20 ans ». Et après, ils revenaient, ils disaient « Une pluie comme ça, on n'a jamais vu depuis qu'on est né ». Et c'est vrai que les maisons fondaient, littéralement fondaient.
Parce qu'elles sont en terre crue, elles sont sensibles à l'eau. Les maisons fondent, vraiment s'écroulent, quoi.
On faisait un pas, ça s'enfonçait, on touchait un mur, ça s'enfonçait. C'était vraiment comme dans un cauchemar.
Oui, même les, moi je me souviens, l'escalier, on montait l'escalier, on sentait que l'escalier, la rampe de l'escalier, en tout cas, vraiment, c'est, on avait l'impression que la main pouvait passer au travers. Et les coupoles, elles évacuaient l'eau, mais il y avait un endroit, je me souviens, dans la maison d'Olivier qui était plat, il a fallu aller écoper l'eau pour empêcher que ça s'écroule. Or, dans le pays, il y a une guerre entre ceux qui construisent en terre crue et ceux qui construisent en béton armé. Olivier, descendant du célèbre architecte Hassan Fathi, est un grand partisan de la terre crue, mais les paysans trouvent que la terre crue, c'est vraiment pour les pauvres. Hein. Eux, ils n'aiment que le béton armé. Et donc ce jour-là, quand je sais pas, il y avait une lumière incroyable au milieu de la nuit, on a vu les paysans arriver enveloppés dans des couvertures. Ils se sont mis autour de la maison, ils ont commencé à crier « Architecte, architecte, tu voulais construire en terre crue, mais regarde où ça nous a conduit, architecte !»
Et il y avait, parce que c'était la nuit du 31 décembre, il y avait la musique qui sortait d'un endroit pas très loin où en fait les gens faisaient la fête toute la nuit, ils ne réalisaient pas ce qui se passait pour le village. Il y avait les tambours pour essayer d'invoquer je ne sais qui pour que la pluie cesse.
Chasser les nuages, oui. Oui, il y a vraiment le mélange de tout.
Les maisons étaient craquelées, quoi. C'était vraiment comme si elles avaient eu une maladie de peau. Et tout le monde prenait ça comme un présage.
Oui. Une dizaine de jours plus tard, la guerre du Golfe a éclaté, la première guerre du Golfe.
Et oui, tout le monde prenait ça comme un présage.
Sur notre chantier, on avait empilé 150 000 briques qui étaient censées servir à la construction. J'avais l'impression qu'ils étaient en train de diminuer. Je ne comprenais pas très bien ce qui se passait au début, puis j'ai commencé à dire, mais c'est probablement le voleur qui est en train de se servir. J'ai été lui dire, il m'a dit, oui, j'en ai pris quelques-unes parce que ça favorise les scorpions, le fait qu'il y ait des briques contre ma maison, mais je te les remplacerai le jour où tu le construiras. Bon. Il y a cet énorme attentat terroriste qui a lieu dans un temple qui est le temple d'Hatchepsout, qui est à moins d'un kilomètre de la maison, qui est juste en face dans la montagne. Et c'est la première fois qu'un attentat islamiste terroriste a lieu à Louxor, au lieu du tourisme en Égypte. Il y a 58 étrangers tués et 4 Égyptiens. Le pays tout entier est en émoi parce qu'ils vivent de ça quand même. Ce n'est pas idéologique, c'est vraiment leur gagne-pain. C'est la ville entière qui est menacée d'asphyxie si le terrorisme gagne.
Là où j'ai vu le hadith, كان هجوم الناس أكثر من البوليس.
Si vous aviez vu le jour de l'attentat, les gens étaient plus nombreux que les policiers à aller à la poursuite des terroristes. La montagne en était pleine. Tout le village, peut-être plus de 3000 personnes, on était tous là à les poursuivre. Les gens étaient derrière eux.
لو طلعوا وطلعوا وطلعت الناس مسافات بعيدة فوق في الجبل وراهم أنا كنت من ضمنهم.
J'étais parmi les poursuivants.
أنت من ضمنهم؟
من ضمنهم أنا كنت موجود وتحاصر.
On les a encerclés. Ils étaient à une cinquantaine de mètres.
حبوا يضربوا على الناس.
Ils ont commencé à tirer sur les gens. Et les gens n'avaient que des bâtons et des pierres.
هجوم يعني هجوم شرس هم الزنقوا في مكان.
On les a encerclés. La police leur a tiré dessus et eux ont répondu. Et finalement, c'est comme ça qu'on les a eus.
Nous, comme on venait d'avoir une petite fille, c'est resté assez lointain pour nous l'événement lui-même. Et je ne sais pas si c'est quelques mois plus tard quand on est revenu à Louxor. Pour nous, la différence, on ne l'a pas senti. On continue à dormir les portes ouvertes, on se sent absolument en sécurité. On est protégé, y compris par notre voleur familier qui considère que nous sommes chez lui, malgré tout, et que donc il nous doit protection. Et c'est à ce moment que, en fait, les choses ont commencé à changer. Yolande est cinéaste, elle avait une assistante qui est venue à Louxor par hasard, elle lui a fait visiter le chantier et elle a pris les photos et cette femme est repartie à Paris et elle est revenue avec deux amis à elle en disant « Nous sommes tombés amoureux de l'Égypte et nous voulons construire, ce n'est pas possible de construire ailleurs puisque vous savez la difficulté qu'il y a à construire en Égypte, donc vous avez un terrain, vous avez des plans, vous avez des fondations, nous respecterons vos plans. » Et nous financerons la construction, et en contrepartie, vous resterez propriétaire de la maison, mais nous aurons la jouissance 6 mois par an pendant 10 ans. C'était ça le deal de départ. Ensuite, ils se sont gratté la tête, ils ont dit non, plutôt 20 ans.
Et après, ils ont dit 30, et nous, on a dit bon, à vie. Il y avait quand même chez nous quelque chose de l'ordre de déposséder nous, c'est trop grand pour nous, c'est trop énorme pour nous. Ils ont très bien entendu ce message, et assez peu les autres. Parce qu'au fond, ils avaient accès à cette maison à cause de notre puissance, entre guillemets, et à cause de notre faiblesse. Parce que si on était capable de la construire, il n'y avait pas de raison qu'ils existent. Et donc, c'était leur chance. Et ils étaient assez clairs là-dessus aussi.
Oui, c'est-à-dire qu'eux, quand même, c'est des gens qui savent construire. En tout cas, l'un d'entre eux, qui est maire d'un petit village de Vendée, qui, lui, a la dureté qu'il faut pour construire et pour menacer et pour faire du chantage et pour envoyer le voleur en prison et pour prendre les moyens qu'il faut pour que cette maison soit construite, mais d'une main de fer quand même, pas du tout dans la convivialité. Oui, en disant, voilà, moi je vais faire les soutiens nécessaires, je vais parler aux autorités, je vais faire des amitiés, j'ai de l'argent, tout ce qu'il faut pour construire, quoi. Et en fait, est-ce que ça entache un rêve comme celui-là? Moi, aujourd'hui, j'ai tendance à dire oui, ça l'entache.
Que s'est-il passé?
Vous deviez partager cette maison.
Non, it's not even that. It's not even that. It's the story of the house that it's more.
L'histoire est si pleine d'émotions, si incroyable. J'étais en mauvais état. Ma femme et moi, on s'était disputés. Je n'étais pas très gentil.
Selim
est venu me voir. J'avais fait les plans et j'avais posé les fondations. Et j'ai eu besoin de quitter le pays. Je ne pouvais pas continuer. Et puis on s'est retrouvés à Paris. Et Selim était fou de rage contre moi. Je ne pouvais pas le croire. Et moi, je devenais fou car je venais de divorcer. Je ne voyais plus ma fille. J'étais en mille morceaux. Et j'ai vu Selim qui était tellement énervé contre moi. Le pire, c'est qu'il disait que je lui devais de l'argent. Un montant en ridicule, symbolique. Je l'ai retrouvé plus tard, il était toujours aussi énervé. Je me suis vu aller aux toilettes, rouler deux billets de 500 francs, deux, trois boulettes. Je suis ressorti et je l'ai lui jeté au visage. Et j'ai quitté l'appartement en claquant la porte. Finalement, il est revenu vers moi à Luxor et il m'a dit:
Hi. I know you're here. Can you do the house?
Bonjour, je sais que tu es de retour. Est-ce que tu peux construire la maison?
Yeah, I have a house.
Et je dis oui.
For you. Now I'm ready.
J'ai une maison à finir pour toi.
It's back to.
Maintenant, je suis prêt.
Yeah, I can do it now. I'm here.
Je peux la faire maintenant.
And everything was forgotten.
La dispute stupide a été oubliée.
Dispute, which was.
Hey. Le jour où la construction reprend, il n'y avait plus une seule brique sur le terrain. Il était mais nettoyé comme par une armée de sauterelles. Et donc j'arrive pour le voir, lui, Rajab, lui, bon, on s'assied, sa femme apporte du thé. Et il me dit soudain, mais tu me dois de l'argent. Je dis, ah bon, moi je te dois de l'argent. Et il me dit, oui, et pourquoi? Il me dit, parce que le jour où, il y a 8 ans, il était question de construire ta maison, j'étais censé être embauché comme gardien. Or, tu m'as jamais payé mon salaire de gardien. Et donc, c'était tant, par 12 pour un an, par 8 pour les 8 ans, et donc tu me dois telle somme faramineuse, importante. Je dis, mais attends, Rajab, un gardien, c'est censé être payé pour garder les choses. Or, la seule chose qu'il y a à garder sur ce chantier, c'est les briques. Et justement, ces briques, elles ont disparu. Donc, vraiment, tu m'as volé 150 000 briques. Il me dit, non, pas du tout. Je dis, ah bon? Il me dit, non, je t'ai volé exactement 148 500 briques. C'est vrai que je ne sais pas écrire, mais je sais compter. Et on s'est tous mis à rigoler. Et quand toi, tu dis que tu l'aimes bien, c'est à cause de ça.
Oui, c'est-à-dire qu'il a une véritable sagesse. Il a une véritable sagesse qui est souvent celle des voleurs. Le Talmud dit quelque chose de très très beau sur les voleurs. Il dit qu'il faut faire comme les voleurs parce qu'ils croient dans ce qu'ils font, ils prennent tous les risques, ils croient dans la parole. Enfin, bon. Raghav n'est pas tout à fait comme ça, mais par exemple, l'année où on a vécu dans le chantier, une nuit, on a retrouvé Raghav couché sur notre lit. Et donc, on le réveille. Et on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Raghav? Parce qu'il regardait, dès qu'il s'est réveillé, il s'est mis à regarder la route, comme ça, intensément. Et il dit, je regarde pour séparer le bien du mal. Et vraiment, il est dans ce regard. Vraiment, il est dans cette espèce de sagesse. En plus, ce que j'aime bien, c'est dans un monde quand même où beaucoup de choses sont dans le rituel, dans la convenance, le faux semblant. Enfin, en Orient, c'est très fort, comme ça, toutes ces formules pour vous accueillir, pour lui, c'est quelqu'un qui est quand même assez précis, comme le racontait Selim sur les briques. C'est quelqu'un qui, au fond, aime bien être pris pour ce qu'il est. C'était d'ailleurs pour un voleur. Et moi, j'aime bien ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, il me donnait une espèce de frontalité, celle qui me manquait. C'est-à-dire, je suis ça, prenez-moi comme je suis. Et dans les moments difficiles, après, il y a toujours une complicité très forte entre lui et moi. Et un jour, je pleurais, il m'entendait pleurer. J'étais dans la chambre de la tour, une fois qu'elle a été construite. Et je l'ai entendu dans le champ, comme ça, en face, crier « Viens, ma sœur, arrête de pleurer, ma sœur. Viens, je t'amène faire un tour de buffle. » Et moi, je me disais « Waouh, personne ne m'a jamais proposé de faire un tour de buffle comme ça. »
Ceci donc, dit, il a souffert avec le trio, parce que le trio n'était pas du tout dans l'admiration de ses qualités de voleur. Ils l'ont envoyé en tôle. Parce que lui, il a voulu faire le même truc, c'est-à-dire qu'il leur a fait payer l'eau à prix d'or et tout. Et puis un jour, ils se sont rebellés. Les 20 ouvriers qui sont arrivés le lendemain pour sur le chantier, non seulement l'eau était coupée, mais ils ont vu Raghav avec un tuyau à la main en train d'arroser le désert.
C'est-à-dire qu'il a une capacité d'inventer des scénarios perpétuels. Et c'est ça qui le fait vivre. C'est que tous les matins, il se lève avec une nouvelle histoire à conquérir, un maître de désert à gagner.
Oui, mais ceci dit, c'est vrai que si on ne s'oppose pas à lui, c'est aussi à cause de lui qu'on a été obligé de... C'est vrai qu'Olivier a laissé tomber, mais lui aussi, il a tout fait pour compliquer les choses. Et d'ailleurs, il était si malheureux d'avoir affaire au trio, qu'ils l'ont complètement exclu de la maison, qu'ils l'ont complètement exclu du chantier de la maison, et qui ont obtenu du tribunal un jugement lui interdisant de mettre les pieds sur le chantier, que soudain on est devenu très gentil à ses yeux. Donc chaque fois qu'on arrivait, il nous disait « Mais ah, comme je regrette le temps passé où c'était vous !» Et moi je lui disais « Mais Raghav, c'est ta faute. Si tu n'avais pas fait le malin avec moi, on aurait continué à construire. Alors tu as voulu gagner sur tous les fronts, et voilà, maintenant tu es out. » Bon, il n'a toujours pas renoncé. D'ailleurs, depuis, à deux reprises, il a été au tribunal pour dire que l'empreinte de son pouce sur le contrat n'était pas son pouce et que donc la vente n'avait pas eu lieu. Il ne renonce jamais.
Non.
Bonjour.
Bonjour.
On m'a dit que Nadjar et Hassan étaient rentrés dans la maison.
Et
tu n'étais pas là. Ils sont rentrés.
Et alors ?
Non, je ne veux pas qu'ils rentrent dans ma maison. Je t'ai déjà dit.
Mais si Nadjar vient me rendre visite et prendre une tasse de thé.
Nous étions d'accord
qu'ils
ne viennent pas travailler, qu'ils ne travaillent pas et qu'ils ne rentrent pas.
Et qu'ils ne rentrent pas dans la maison.
Si Hassan et Nadjar viennent me rendre visite, tu crois que je vais leur dire non? C'est impossible, Raghav. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir.
Mais qu'est-ce que tu es têtu? Je n'ai jamais vu plus têtu que toi.
Je ne suis pas têtu, je suis sincère.
Pourquoi le têtu ne serait pas sincère? Ce n'est pas incompatible.
Je dis ça pour qu'on reste amis.
Bien sûr qu'on va rester amis. Il y a un conflit entre nous parce que Najjar est entré dans la maison pour me saluer.
Exactement.
Ne t'en fais pas.
Bon, ça va.
Il y a vraiment un processus de dépossession. Ils ont commencé à en faire état. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à construire la maison. Ça, vraiment, il faut le reconnaître. C'était vraiment pas évident. Et donc, il y a eu des articles sur cette maison parce que vraiment, c'était une invention architecturale. Et soudain, on a vu apparaître dans les journaux des phrases comme sur les ruines du rêve de Selim Nassib et Yolande Zoberman. Nous avons construit cette maison. Et ça, c'était au début. Et puis, soudain, progressivement, on a disparu complètement. C'était leur maison dans le désert de Louxor. Et c'est devenu chic. Une fois que la maison était prête, on a fait comme on fait en Europe, c'est-à-dire on a fabriqué une plaque. Cette maison a été construite par Olivier, architecte, et elle a été achevée le 31 décembre 2000, qu'on a incrustée au-dessus de la porte.
Et quand on est arrivé là-bas, ils avaient tout fait pour venir en même temps que nous.
Le trio en question, ouais. Oui.
Et tout fait, vraiment tout fait. Et nous, on leur avait dit, non, juste un moment, vous nous laissez, quoi. Ça dure depuis si longtemps, cette histoire. Laissez-nous un moment de solitude, à renouer, justement, avec le rêve. Et on est arrivé. Les avions arrivent souvent tard dans la nuit, ce qui est agréable. Et donc, de l'aéroport, on a été boire un verre, je me rappelle, au Old Winter Palace, qui est un hôtel anglais, très british, comme ça, tout en bois.
Sur l'autre rive, sur la rive des vivants, oui.
Et on est passé de l'autre côté. Quand on passe la nuit, il y a toujours de la police, des militaires qui sont là et qui vous arrêtent. Et Selim est sorti de la voiture. Il a dit on va dans notre maison. Bon, ils nous ont laissé passer. Et on arrive et on visite cette maison. Moi, je me suis retrouvée un peu à la visiter toute seule à un moment. Et tout d'un coup, je les entends arriver. Et là, c'était très, très étonnant parce que moi, je savais pas trop ce que c'était crier, après j'ai compris. Et c'est vrai que ma voix dans le désert, personne ne l'avait entendue jusque-là. Et j'ai commencé à hurler, mais je savais pas ce qui me prenait. C'est-à-dire que j'étais en même temps spectatrice de ce qui m'arrivait. Je faisais des tours dans la cour, comme ça. Et je me rappelle, j'enlevais les vestes, j'avais un blouson, des pulls, et tout ça. J'enlevais tout au fur et à mesure. et je m'aidais d'images de femmes à l'intérieur de ma tête, de femmes libres. Et en même temps, j'avais l'impression que c'était un jeu, et en même temps, j'avais l'impression que j'allais casser en deux. Et il y avait Johanna, une amie qui était là et qui a été les voir en disant « Mais vous ne vous rendez pas compte, c'est un rêve que vous êtes en... vous ne pouvez pas respecter ça. » Et là, ils sont partis en larmes.
On a marché dans le désert, à 500 mètres, il y a une première colline, qui est une espèce de contrefort de la montagne de Thèbes. On est monté sur la colline, on s'est assis, on l'a regardé de loin. Et c'est assez extraordinaire, parce qu'il y a une tour. Et ça, ça n'existe pas. Les seules tours qui existent dans le coin, c'est les minarets des mosquées. Là, il y a une tour carrée qui dessine des surfaces de 80 mètres carrés sur chaque étage, entièrement illuminée. Et à côté de la tour, bon, il y a le corps du bâtiment qui entoure la cour de 200 mètres. Et vraiment, je ne croyais pas que c'était fait. Je n'ai pas cru que c'était fait. Je n'ai pas cru qu'elle était là. C'est comme un rêve qui se réalise, et c'est peut-être ça le problème, c'est que moi j'ai des problèmes avec le rêve qui se réalise.
Moi, ce que je trouvais beau, parce que c'est vrai que c'est souvent des gens qui me touchent, et là ils étaient très très proches, c'est que pour la première fois je voyais ce que ça voulait dire, des corps qui avaient été traversés par la guerre. C'était dans l'histoire d'Olivier, dans l'histoire de Selim, dans la difficulté aussi à recevoir cette maison qui avait l'air de venir des dieux, quoi, des pharaons, de je ne sais. Je voyais aussi des gens qui avaient du mal avec vivre. Et c'était clairement lié, je ne savais pas vraiment dire comment, ça passait par plein de choses, par la drogue, mais la drogue qui est très facile à trouver dans le désert, puisque les paysans la mangent tous à partir de 40 ans, parce qu'ils estiment avoir fait leur vie et que ça va, quoi. Ils peuvent profiter du bon temps à partir de là. Donc je voyais des gens qui se faisaient du mal, mais parce qu'ils avaient vécu un rythme que nous, on ne connaît pas d'une certaine manière. Et dont on connaît les restes de ce qui nous a été transmis par les mémoires, mais donc, qu'on n'a pas connu dans nos rythmes de vie à nous. Et au fond, connaissant quelqu'un à Paris, avec qui, enfin, voilà, on partageait la vie, on faisait ce qu'on avait à faire. Je ne me rendais pas compte de ce que ça voulait dire, vivre avec quelqu'un dont le corps a connu la guerre.
C'est pas juste la guerre, c'est aussi aussi bien Olivier que moi, les lieux dont nous sommes issus, qui en principe sont des lieux associés à des souvenirs d'enfance, sont devenus, et de plus en plus, des lieux de guerre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de complètement brûlé dans l'origine. Bon, c'est vrai que Louxor est un peu à l'écart de ça, bon, malgré l'attentat terroriste qu'il y a eu, c'est vrai que c'est un endroit qui est en paix, avec une très grande pression sous-jacente. Et donc, on est quand même sur le fil tout le temps. Et c'est vrai que Yolande a été un peu notre invitée dans ce rêve cauchemar, quoi. À la fois, et avec comme cadeau, mais peut-être empoisonné, je ne sais pas, ce palais dans le désert.
Ouais, quoi qu'il arrive, c'est un cadeau. Ouais. Et c'est vrai que toute cette histoire, on l'a prise comme une photographie de nous, plus que comme une chose qui nous était due, puisque qu'est-ce qui nous était dû? Cette maison, c'était une histoire d'amour, et à un moment, cette histoire d'amour n'était peut-être pas tout à fait une histoire d'amour, et au moment où l'histoire d'amour n'était plus tout à fait une histoire d'amour, la maison n'est devenue qu'une maison, et n'est devenue qu'un enjeu de propriété dans lequel nous, on était nuls. Et là, par exemple, on part dans une période plutôt conflictuelle, puisqu'on est en procès, puisqu'il y a des gardes qui sont censés nous empêcher de rentrer dans la maison. Et en même temps, on y va assez... presque heureux, là, parce que l'histoire de la maison est revenue. Et donc, puisque l'histoire de la maison est revenue, moi, je crois que la maison va revenir. Mais je crois toujours des choses aussi simples que ça. C'est comme ça depuis le début, donc on verra bien.
C'était la face A de l'atelier de création radiophonique Luxor Story par Céline Nassib et Yolande Zobermann. avec les voix de Benoît Giraud, Daniel Königsberg, Benoît Di Marco. Prise de son Éric Gérard, Philippe Carminati, mixage Antoine Lehambre, une réalisation de Charlotte Roux.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 avril 2007.